Radio Prague, les informations.
Bonjour, le Premier ministre a reçu les signataires de la pétition pour le limogeage du ministre de la Culture. La Banque nationale a revu à la baisse sa prévision de croissance économique pour cette année. Ce vendredi, plusieurs centaines d'étudiants tchèques ont manifesté pour le climat dans le cadre du mouvement Fridays for Future. Le président du Parti social-démocrate et vice-premier ministre Jan Hamáček ne s'apprête pas à proposer la révocation du ministre de la Culture, le social-démocrate Antonín Staněk. Jeudi, le premier ministre Andrej Babiš et Jan Hamáček ont rencontré quelques-uns des 5000 signataires d'une pétition appelant au limogeage du ministre. De nombreux artistes tchèques et chefs de diverses institutions culturelles critiquent en effet le ministre Antonín Staněk suite à sa décision controversée de licencier le directeur de la Galerie nationale Jiří Fajt, ainsi que celui du Musée des arts d'Olomouc, Michal Soukup. À l'issue de sa rencontre avec les signataires de la pétition, le vice-premier ministre Jan Hamáček s'est dit inquiet de la situation dans le secteur de la culture. Selon lui, des appels à candidature pour les postes de directeur des deux institutions devraient être lancés dans les plus brefs délais. La Banque nationale a décidé de revoir à la baisse ses prévisions pour l'année 2019 ainsi que pour l'année prochaine. Désormais, la Česká národní banka table sur un taux de croissance de 2,5% cette année, tandis qu'un taux de 2,9% était encore envisagé en février dernier. L'année prochaine, la croissance du PIB devrait atteindre 2,8%, alors qu'en février, la Banque centrale a prédit un taux de 3%. L'information a été communiqué jeudi par le gouverneur de la Banque nationale, Jiří Rusnok. Deux journalistes de la radio publique tchèque, Kristýna Novotná et Marie Bastlová, ont reçu jeudi à Prague les prix du journalisme 2018 décernés par la fondation OSF. Ces prix, attribués par un jury composé de professionnels indépendants, distinguent les meilleures enquêtes, entretiens et reportages qui contribuent au développement d'une société démocratique. Parmi les autres personnalités récompensées figure Kateřina Šafaříková de l'hebdomadaire Respect. Elle a été primée pour son interview avec le journaliste et écrivain Philippe Lançon qui a survécu à l'attentat contre Charlie Hebdo. Et puis le journaliste d'investigation slovaque Jan Kuciak, tué par balle avec sa compagne en février 2018, a remporté à titre posthume le prix journalistique tchécoslovaque décerné par le public. Après le 15 mars dernier, où il s'était déjà mobilisé dans le cadre de l'initiative Fridays for Future, les étudiants lycéens et collégiens tchèques ont à nouveau manifesté au centre de Prague et dans une vingtaine de villes tchèques ce vendredi. Ils étaient plusieurs centaines à exprimer leur mécontentement face à l'inaction des dirigeants politiques en faveur du climat. Soutenus par l'ONG Duha, la branche tchèque de Greenpeace, ainsi que par une centaine de scientifiques et académiciens tchèques, les étudiants se mettront de nouveau en grève et manifesteront dans les rues du pays le 24 mai prochain. De même, ils se joindront aux protestations contre le réchauffement climatique prévues fin juin à Aix-la-Chapelle en Allemagne. La compagnie allemande Flixbus a annoncé jeudi avoir finalisé le rachat des sociétés d'autocars longue distance Eurolines et Easylines à l'opérateur de transport français Transdev. L'acquisition d'Eurolines, active en République tchèque, en Espagne, aux Pays-Bas et en Belgique, renforce le réseau européen de la société allemande. Celle-ci prévoit entre autres le lancement de nouvelles lignes d'autocars entre Prague et Plzeň. Et début ce vendredi à Plzeň, en Bohême de l'Ouest, des fêtes de la liberté, un événement qui a pour objectif de commémorer le 74e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et la libération de la ville par l'armée américaine. Les festivités s'y poursuivront tout au long du week-end. Le public pourra notamment assister dimanche au défilé dans les rues du centre-ville du traditionnel convoi de la liberté, composé de plus de 200 véhicules militaires de la Deuxième Guerre mondiale. Des anciens combattants américains et belges participent à cette grande fête de la liberté à Plzeň, qui accueille chaque année des dizaines de milliers de spectateurs. Côté météo, le week-end s'annonce gris et pluvieux. Samedi, jour de la fête des Kvetoslav, le temps sera couvert avec des précipitations sur l'ensemble du territoire tchèque. Les températures seront comprises entre 11 et 15 degrés. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinko. La suite du programme avec Colin Gruel.
faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Suite et fin du programme en français de Radio Prague, avec un programme en deux temps. Le ministère tchèque de l'agriculture veut en finir avec la double qualité des aliments. Vous n'avez rien compris à cette phrase, Anna Kubišta vous explique tout. Et puis le départ du marathon de Prague, ce sera ce dimanche sur la place de la vieille ville. Guillaume Narguet nous en parlera. Bonne écoute. Mi-avril, le Parlement européen a approuvé la directive visant à renforcer la protection des consommateurs de l'Union européenne et plus particulièrement la lutte contre la double qualité des aliments. Seulement, la directive n'interdit pas la pratique, contrairement à ce que voulaient imposer les eurodéputés tchèques et des pays d'Europe centrale et de l'Est. C'est pourquoi le ministère de l'Agriculture tchèque veut imposer des sanctions pouvant aller jusqu'à 50 millions de couronnes d'amende. Pour nous en parler en studio, nous sommes avec Anna Kubišta de la rédaction de Radio Prague. Bonjour Anna.
Bonjour.
Alors Anna, la double qualité des denrées alimentaires, qu'est-ce que c'est ?
C'est en fait présenter sous un même emballage des produits alimentaires de même marque, mais de qualité et de composition différentes. Les industriels de l'agroalimentaire invoquent le goût particulier, avec beaucoup de guillemets, hein, des différents marchés concernés. Mais les révélations des tests de qualité rendent difficilement justifiable cette pratique, qui concerne d'ailleurs aussi les produits d'entretien, une pratique que certains trouvent déloyale.
D'accord. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on peut peut-être donner quelques exemples ?
Alors justement, à titre d'exemple, on trouve par exemple des chips produites avec de l'huile de tournesol et aromatisées au paprika, donc en Allemagne voisine, et qui sont vendues en République tchèque dans une toute autre version de l'huile de tournesol mélangée, je vous le donne dans le mille, à l'huile de palme pour la friture et un exhausteur de goût pour l'assaisonnement. Et puis par exemple également une limonade dont on taira le nom, hein, mais qui est très connue dans le monde, dans un emballage rouge vendue en Allemagne, qui est fabriquée avec du vrai sucre, donc en Allemagne voisine, tandis qu'en République tchèque, ce dernier est remplacé par du sirop de fructose, glucose, ça a l'air bon, et beaucoup moins onéreux. Et puis cette qualité moindre ne signifie même pas que le prix est nécessairement plus bas pour certains produits. Certains produits justement de moindre qualité pouvant être proposés plus cher aux consommateurs tchèques.
Eh bien, bon appétit. Alors Anna, on imagine que la révélation de cette pratique a suscité, c'est le moins qu'on puisse dire, quelques réactions.
Alors la Tchéquie, justement, est depuis quelques années un des fers de lance dans la lutte contre cette pratique. C'est un engagement qui ne doit rien au hasard, puisque ce problème concerne particulièrement les pays d'Europe centrale et orientale, qui sont, et on comprend, offusqués de voir leurs citoyens considérés comme des consommateurs de seconde zone. Mais la directive adoptée récemment par le Parlement européen ne va pas assez loin pour les eurodéputés tchèques, comme le relève l'une d'entre eux, Olga Cernalova, qui est à la pointe du combat depuis plusieurs années déjà.
Le texte tel qu'il a été approuvé n'est pas bon. Désormais, la balle est dans le camp de la République tchèque et du législateur tchèque. S'il n'est pas possible de régler le problème de la double qualité des aliments au niveau européen grâce à une directive une bonne fois pour toutes, alors la législation tchèque doit entrer en jeu, notamment en termes d'étiquetage des produits. Si la double qualité n'est pas interdite, nous devons au moins forcer les producteurs à ce que celle-ci soit mentionnée sur l'étiquette. C'est quelque chose que la République tchèque peut faire seule.
Bon, et en Tchéquie, plus spécifiquement, qu'en dit-on, Anna ?
Alors, le ministre de l'Agriculture a d'ailleurs déjà annoncé préparer un projet de loi qui infligerait des sanctions à hauteur de 50 millions de couronnes, soit 2 millions d'euros, aux industriels proposant des produits au rabais sous le même emballage que celui d'origine. Fin avril, Miroslav Toman, donc le ministre, a fait savoir que ces pénalités pourraient être mises en place d'ici un an, mais pour le président de l'Union du commerce et du tourisme, Tomáš Prouza, ce projet ne règle qu'une partie du problème seulement. Selon lui, les industriels de l'agroalimentaire occidentaux ne permettent pas aux commerçants tchèques d'acheter les produits destinés aux pays de l'Ouest de l'Europe, les forçant à commander ceux qui sont customisés pour les marchés d'Europe centrale et orientale. Le Premier ministre Andrej Babiš a déjà fait savoir qu'il allait rencontrer sous peu les représentants des chaînes de magasins pour déterminer si cette pratique, tout aussi déloyale, est effectivement en vigueur. Il n'est pas possible d'avoir en Europe deux types d'États membres, deux catégories de citoyens. Nous devons tous avoir les mêmes possibilités et les mêmes droits, a-t-il encore ajouté.
Anna Kubišta, merci. Un peu plus de 10 000 coureurs prendront dimanche matin, depuis la place de la vieille ville, le départ du 25e marathon de Prague. Un anniversaire qui est l'occasion de rappeler l'histoire d'une course considérée par beaucoup comme un des plus beaux marathons urbains au monde, Guillaume Narguet.
Et si vous voulez gagner quelque chose, courez un 100 mètres. Et si vous voulez changer votre vie, courez un marathon, prétendait-il. On ne peut pas évoquer l'histoire du marathon de Prague sans citer le plus célèbre des coureurs tchèques, l'inégalé Emil Zatopek. Le vainqueur du marathon olympique d'Helsinki en 1952 a en effet grandement concouru à l'organisation de la première édition du Pražský marathon en 1995, comme s'en souvient dans son tchèque aussi inimitable que l'était le style de course de Zatopek, Carlo Capalbo, un Italien un peu cinglé, comme il se définit lui-même.
Ma, vous savez très bien ce qui se dit sur Prague, la cité dorée, que c'est une des plus belles villes du monde, qu'il y a une excellente bière, le cristal de Bohême et de superbes filles. Les Italiens raffolaient de Prague dans les années 90 et comme j'y travaillais, de nombreux amis venaient pour y passer un peu de bon temps. Parmi eux, il y avait Gerindo Bordin, le vainqueur du marathon olympique de Séoul en 88. Et un samedi après-midi, on buvait quelques bières dans une brasserie et c'est lui qui a eu cette idée. Carlo, pourquoi tu n'organiserais pas un marathon à Prague? Je pensais qu'il n'était pas sérieux. Moi, un marathon, Gerindo?
Chope de bière aidant, comme Carlo Capalbo se plaît volontiers à le rappeler aux médias tchèques lorsque chaque année, ceux-ci lui demandent de raconter la genèse de la course. L'idée a néanmoins rapidement fait son chemin, malgré le doute de celui qui, depuis, occupe les fonctions de président de la société organisatrice du marathon.
Carlo, tu sais ce que je vais faire? Je vais appeler Emil Zatopek. C'est ce que m'a dit Gerindo. Il l'a donc appelé. « Salut Émile, comment ça va ?» Et en fin d'après-midi, nous étions déjà chez les Zatopek dans leur maison à Troja, à Prague, et nous avons eu droit à du gâteau, à un verre de Slivovitz, mais surtout, je suis reparti de chez eux avec le premier parcours du marathon de Prague, dessiné sur un bout de papier par Monsieur Émile Zatopek en personne.
« 25 ans plus tard, le parcours emprunté a bien changé et n'a plus grand-chose à voir avec celui imaginé par l'ancien quadruple champion olympique. Ainsi, lors des premières éditions, le départ était donné de la place Venceslas. Depuis quelques années, il l'est depuis la place de la vieille ville, théâtre aussi de l'arrivée, au bout d'un tracé qui emprunte notamment le pont Charles, passe par le quartier de Malastrana. Le bas de la place Venceslas contourne le théâtre national, passe sous Vyšehrad, tout en longeant et traversant la rivière Vltava à plus de 10 reprises. Bref, des boucles et reboucles dans le centre historique qui plaisent aux coureurs, comme le confirmait Liliane au micro de Radio Prague il y a 2 ans de cela.
Oui, oui, tout à fait, parce qu'on passe au cœur de la ville et puis on passe le pont Saint-Charles et puis il y a plein de belles choses. Et j'ai même eu l'occasion de partager avec une personne que j'ai connue le temps de la course. Il y avait la maison qui danse, une maison assez... Donc on apprend tout au long du parcours, on apprend plein de choses, hein. Ouais, c'est très agréable. Ouais.
Ce parcours agréable et touristique, malgré les nombreux pavés, explique en grande partie le succès du marathon de Prague auprès des coureurs étrangers. Selon les organisateurs, pas moins de 2/3 des inscrits proviennent d'une 60aine de pays du monde entier. Ancien directeur du marathon des Alpes-Maritimes, Nice Kahn, et membre de l'Association internationale des marathons et des courses sur route, Bruno Bukobza nous avait expliqué ce qui, selon lui, faisait le succès de Prague, et notamment auprès des Français, lorsque nous l'avions rencontré il y a quelques années de cela.
De nombreux coureurs ont fait Prague. Pourquoi ? Français, pas parce que Prague c'est une ville touristique, 1h30 de chez nous, et ben ça nous donne envie de venir courir et dans des conditions et une qualité de course qui fait aujourd'hui de Prague une des meilleures courses au monde. Pas forcément par son nombre de coureurs, parce que on est un petit peu limité par la place, mais qu'aujourd'hui, de nombreux coureurs français, d'ailleurs cette année, les premiers représentants étrangers étaient les Français lors du marathon.
In the marathon, Emil Zatopek has taken command after trailing Britain's Jim Peters for 11 miles.
Et à n'en pas douter, malgré une météo annoncée maussade, ils le seront de nouveau dimanche matin lorsqu'il s'agira de s'élancer sur l'air du poème symphonique « Ma patrie » de Bedřich Smetana, autre symbole avec Zatopek du marathon de Prague.
Avant de se quitter, comme chaque vendredi, vous avez rendez-vous avec la revue de presse d'Alena Gebertova. Au sommaire, les représentants des extrêmes droites européennes qui se sont donné rendez-vous à Prague, l'élection présidentielle en Ukraine, la sécheresse qui menace la République tchèque et les 5 ans de la mort de la chanteuse Ivana Bartošová. Bonne écoute.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
Le cirque Okamura n'a plus d'attrait, tel est le titre d'un article publié dans le quotidien Reflex, qui revient sur la tenue au centre de Prague le 24 avril dernier d'un rassemblement contre le diktat de l'Union européenne par lequel Tomio Okamura, leader du parti Liberté et Démocratie Directe, SPD, principale formation d'extrême droite en Tchéquie, a ouvert sa campagne avant les élections européennes. Son auteur écrit.
Ce jour-là, le chef du SPD semblait avoir tout pour lui. Le beau temps, la présence sur le podium en haut de la place Wenceslas, deux stars du nationalisme européen, l'Hollandais Geert Wilders et la Française Marine Le Pen, et surtout un concert du groupe phare de nationalistes locaux appelé Hortel. Ce cadre n'a pourtant fait qu'accentuer le résultat sinistre du rassemblement auquel un millier de personnes à peine a pris part et contre lequel des centaines d'opposants ont manifesté. Au lieu de faire preuve de sa force dans la capitale, comme il espérait, Tomio Okamura a été contraint d'admettre que son parti ne pouvait s'appuyer que sur des sympathisants dans certaines parties du pays, notamment dans les régions industrielles de la Bohême et de la Moravie du Nord.
Populiste et nationaliste, Tomio Okamura joue en toute occasion la carte de l'immigration. Toutefois, dans un pays dont les habitants n'ont pratiquement aucune chance d'apercevoir un migrant illégal, celle-ci n'a d'effet que pendant un certain temps. D'autant que, de toute évidence, aucune vague migratoire venant d'Afrique et du Proche-Orient ne s'apprête à déferler sur la Tchéquie, remarque sur un ton ironique l'auteur de ces lignes. Selon lui, on peut donc s'attendre à ce que le mainstream nationaliste se cherche un nouveau leader plus acceptable, quelqu'un comme Václav Klaus Junior, par exemple. L'élection présidentielle en Ukraine a dominé l'agenda international de la presse tchèque de cette semaine. Dans une analyse consacrée à cet événement dans la dernière édition de l'hebdomadaire Respect, on peut lire.
La victoire de Volodymyr Zelensky a soulevé dans les pays à l'ouest de l'Ukraine, donc on checkait aussi deux questions. D'abord celle de savoir ce que l'on peut attendre d'un humoriste qui ne dispose d'aucune expérience politique, et puis la question de savoir ce que l'on doit penser d'un pays qui choisit un tel président.
On ne sait pas. Telle est, toujours selon le magazine Respect, la seule réponse correcte à la première question. Et c'est probablement Zelensky lui-même qui ne le sait pas. En ce qui concerne le deuxième point, les électeurs ukrainiens semblent avoir voulu donner une leçon aux politiciens, au pouvoir, ainsi que tout simplement un changement. Il ne s'agit pas d'une situation exceptionnelle, écrit le commentateur en référence à l'élection de Donald Trump, avant de poursuivre.
S'agissant de l'absence de programme chez Zelensky, le public tchèque a devant les yeux l'exemple d'Andrej Babiš qui en 2013 a séduit les électeurs en leur promettant de travailler, de faire venir des professionnels en politique et d'assurer une vie meilleure. Une promesse vague, dépourvue de contenu authentique.
De toute façon, remarque le commentateur en conclusion, il n'y a pas lieu de percevoir l'Ukraine comme un cas bizarre et isolé, car dans le monde d'aujourd'hui, l'élection de Zelensky est en fin de compte compréhensible et pertinente. Ce 1er mai, 15 ans se sont écoulés depuis l'entrée de la République tchèque dans l'Union européenne. Une occasion pour le commentateur de l'hebdomadaire Econome de dresser un petit bilan économique de cette période et de constater qu'en dépit du profit indiscutable que le pays en a tiré, les politiciens et les hommes d'affaires tchèques hésitent à être élogieux, il écrit.
Ces jours-là, les gens ont fêté l'entrée du pays dans l'Union européenne, en beauté et tout en solennité, sur la place de la vieille ville à Prague. Pour la majorité de la population, cet acte a signé pour de bon l'appartenance du pays dans la famille des démocraties occidentales. Mais le président d'alors, Václav Klaus, a accueilli ce moment clé en grimpant au sommet du mont mythique de Blanik, un symbole du patriotisme lié à de nombreuses légendes. À ce moment-là déjà, le rapport ambigu des Tchèques vis-à-vis de l'Union européenne était visible.
Au cours des 15 dernières années, la Tchéquie s'est enrichie, son niveau de vie représentant 89% de la moyenne européenne en comparaison des 74% enregistrés avant son entrée dans l'Union européenne. Son taux de chômage est le plus bas à l'échelle européenne, tandis que sa croissance économique est supérieure à la moyenne des pays membres. Le commentateur souligne que c'est grâce à sa participation au marché européen unique que l'économie locale se développe dans une telle ampleur, la majeure partie des exportations tchèques étant destinée au marché communautaire. Mais il indique également.
Les représentants des groupes et des entreprises tchèques n'ont pas le moindre doute s'agissant de l'importance de l'appartenance du pays à l'Union européenne, car ses avantages prévalent largement. Cela dit, ils sont assez rares à vouloir le déclarer en public. L'Union européenne est un sujet qu'ils occultent, tout comme le font dans une grande mesure les politiciens tchèques.
La sécheresse qui, au dire des experts, a été alarmante dans le pays en ce mois d'avril, a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Un article publié dans le quotidien économique Hospodářské noviny rappelle que les pays tchèques ont connu des périodes sèches particulièrement graves dans le passé. Par exemple, au cours de la deuxième moitié du 19e siècle. Il cite à ce propos le spécialiste de l'histoire du climat, Lukáš Dolák.
Aujourd'hui, la situation est pourtant foncièrement différente en raison d'une plus grande dépendance à l'eau, des activités industrielles et de la nouvelle situation démographique. Et si par le passé, l'homme n'était pas responsable des caprices du climat, depuis la révolution industrielle, il représente l'une de leurs causes principales. Or, se débarrasser peu à peu de la dépendance au charbon est la première décision que la Tchéquie est désormais invitée à prendre.
Dans un entretien accordé au journal Lidové noviny de samedi dernier, le biologiste Jan Pokorný a défendu une autre hypothèse.
Les civilisations lointaines, comme la Mésopotamie, l'Afrique du Nord ou la vallée de l'Indus, ont toutes subi la sécheresse. Et pourtant, elles n'augmentaient pas la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, car elles ne brûlaient pas les combustibles fossiles, n'utilisaient pas le charbon. Ce constat prouve que c'est la mauvaise gestion de l'eau et de la végétation dans le paysage qui est avant tout responsable de l'état actuel.
Pour lui, il est donc déplacé de se focaliser uniquement sur les gaz à effet de serre et d'ignorer l'impact direct de ce dernier aspect sur le climat. Le site Echo24.cz a rappelé la mort il y a 5 ans de cela de l'une des chanteuses tchèques les plus populaires des années 1980 et 90, Iveta Bartošová, qui s'est suicidée à l'âge de 48 ans en se jetant sous un train. L'occasion d'évoquer aussi le rôle néfaste joué dans cette tragédie par les tabloïds et les paparazzi.
Très populaire à l'époque, Iveta Bartošová a été sacrée à 3 reprises chanteuse de l'année. Sa carrière a décliné au gré de sa dépendance à l'alcool et aux médicaments. Après avoir tenté à plusieurs reprises et en vain de relancer sa carrière défaillante, la chanteuse est devenue une proie facile et très sollicitée des tabloïds qui suivaient le moindre de ses excès et de ses extravagances. La demande en information sur la chanteuse était alors immense. Elle se tut, mais nous qui la suivons, suivant, nous allons la tuer aussi, disait peu avant sa mort un journaliste connu de la Press People.
Il n'est donc guère étonnant que la mort tragique d'Iveta Bartošová ait soulevé une nouvelle vague d'intérêt pour ses disques. Cet intérêt a ensuite peu à peu décliné, mais les tubes de la chanteuse restent inscrits sur les playlists des radios.
Et c'est la fin de cette émission présentée aujourd'hui par Colin Gruel. L'info check en français, ça continue sur radio.cz/fr et sur les réseaux sociaux où vous nous followez, vous nous aimez et vous nous retweetez. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Ahoy!